Bonjour, je suis Gaëlle Lévesque, je suis maire de Lodève. Aujourd'hui, une fête un petit peu particulière sur le territoire puisqu'on fête la fin des travaux du clocher de Saint-Fulcran. Ce sont des travaux d'importance, on a appelé ça le chantier du siècle, mais c'est vraiment pas usurpé, hein. On est sur un chantier avec un coût déjà très très important puisqu'on est sur un 1 800 000 euros hors taxes de travaux payés en grande partie par l'État à travers le fonds de relance, la région Occitanie, le département de l'Hérault et la commune, et des travaux qui étaient nécessaires, urgents même, puisque le haut du clocher de Saint-Fulcran était en train de s'ouvrir en deux.
Alors je me présente, Jean-Marc Sauvier, je suis vice-président de la communauté de communes en charge du patrimoine, de la culture, des spectacles vivants et des métiers d'art. Cette restauration a duré 1 an et demi avec énormément de surprises parce que beaucoup de pierres ont été changées, entre autres surtout sur le dernier étage où les cloches, avec les vibrations de ces cloches sur un beffroi en métal, avaient créé des incidences qui ont fissuré pratiquement la totalité du clocher. C'était inquiétant, oui, parce qu'effectivement, elle se fissurait déjà de part en part, donc elle aurait pu, à terme, peut-être s'effondrer, peut-être pas tout de suite, mais quand même, il fallait intervenir quand même pour refaire des fondations et receller un petit peu tout ça.
Je suis Quentin Muller, je suis donc le tailleur de pierre et je suis le dirigeant de l'entreprise Vermorel, une entreprise de taille de pierre, de maçonnerie, sculpture. Puis on fait aussi un peu d'échafaudage et de restauration de sculptures. On est basé à côté de Rodez, en Aveyron. Et on travaille sur toute l'Occitanie et les régions limitrophes. Éventuellement un peu plus loin, quand les projets le motivent. Par exemple, on vient d'achever un chantier sur Notre-Dame de Paris. On travaille depuis à peu près un an en sculpture. Il s'agissait de refaire à peu près 800 éléments de sculpture qui avaient été endommagés par l'incendie ou érodés préalablement à l'incendie, dans le cadre de la restauration qui est en cours. Ici aujourd'hui, nous sommes à Saint-Fulcran, à Lodève, et c'est un chantier qui a été un énorme chantier, un très beau chantier pour nous, sur un bâtiment tout à fait intéressant, important, de l'histoire de l'architecture, en particulier du gothique du Languedoc. Le clocher de Lodève, c'est pour nous un chantier qui a duré 1 an et demi, de haute intensité, je dirais, avec des équipes importantes. 25 000 heures de travail au total, c'est vrai, c'est énorme. On avait une très grosse opération sur Saint-Fulcran de Lodève, une très grande concentration de travail sur un planning très serré, grâce au plan de relance de l'État, qui a injecté des fonds peut-être inespérés. Donc oui, il a fallu beaucoup, beaucoup de travail sur une courte période.
Éric Suzanne, sous-préfet de Lodève depuis 2021, fin 2021. Ici, on avait une ouverture quand même du clocher en deux. Moi, je l'ai visité. Les pigeons qui ont beaucoup, beaucoup abîmé, ça, c'est un vrai cancer. Hein. C'est un vrai problème, la présence de pigeonnières qui massacrent les pierres, qui massacrent tout, qui arrachent tout. Mais surtout, on avait l'ouverture du clocher qu'il s'agissait de rénover. Enfin, c'était pas chef-d'œuvre en péril, mais enfin, imaginons que le clocher se soit effondré, on aurait eu bonne mine.
Bonjour, je suis Mélanie Gerbail, architecte à l'agence de Frédéric Fior, qui est architecte du patrimoine.
Je suis Frédéric Fior, architecte du patrimoine, donc en charge de la restauration de ce clocher. Alors, les principaux enjeux donc, de cette entreprise étaient d'abord de restaurer le clocher, donc d'une part, et d'autre part, c'était d'ouvrir ce clocher à la visite du public. Donc de créer les aménagements pour que le public puisse monter jusqu'au dernier étage, dont la vocation est d'offrir aux visiteurs une vue sur le panoramique, sur la ville de Lodève et le paysage environnant.
Bah, on a commencé les études en 2020, donc on a fait une étude préalable à la restauration, donc pour bien diagnostiquer les problèmes structurels, l'état sanitaire des maçonneries. On a bénéficié d'orthophotos réalisées par un archéologue, donc qui nous ont permis de bien pouvoir anticiper l'état des maçonneries. Et du coup, on a monté le projet sur la base de ça, donc à la fois avec les objectifs sanitaires et puis les objectifs d'aménagement et d'ouverture au public.
Il y a le côté effectivement assez religieux, mais aussi laïque, parce que effectivement, les Lodévois se retrouvent dans Saint-Fulcrance, un petit peu une architecture emblématique. On la voit de l'autoroute, hein, c'était l'élément central un petit peu de la ville. Donc c'est vrai que chacun a voilà, une histoire, une sensibilité par rapport à ce clocher, ça c'est important.
Et puis ça va quand même avec l'idée qu'il faut, remettre Lodève sur ses pieds, sur les rails. Il faut créer de la valeur, il faut créer de l'intérêt, il faut créer de l'attractivité. Le territoire pourrait aller plus loin d'ailleurs. Moi je trouve qu'il fait pas mal de choses déjà, mais il devrait aller plus loin en ayant une forme d'union sacrée publique-privée, avec des projets d'hôtellerie, des projets ici, des projets d'hôtellerie haut de gamme, la viticulture, une touristique de moyenne gamme et de haut de gamme. Tout ça, c'est des axes qu'il faut vraiment développer.
C'est un chantier pour lequel il y a eu une grosse mobilisation des collectivités et de l'État. Ça veut dire qu'ils reconnaissent la valeur patrimoniale de la cathédrale, mais ils reconnaissent aussi l'importance de la cathédrale pour Lodève, et donc ils reconnaissent Lodève. Donc effectivement, par phénomène de ricochet, de tels financements démontrent que Lodève a une place qui est importante dans son territoire lodévois et l'Arzac, mais au-delà, c'est la deuxième sous-préfecture de l'Hérault, et c'est aussi pour moi le symbole de ces territoires qui sont considérés comme semi-ruraux, de ces bourgs-centres qui, pendant des années, finalement, ont été dépréciés au profit des métropoles ou des plus grandes agglomérations, et qui aujourd'hui, parce que la conjoncture et l'envie d'habiter des gens, elle a changé, il y a un retour vraiment vers nos espaces semi-ruraux, parce qu'on a une qualité de vie qui est quand même sacrément plus agréable que dans les métropoles. Un rythme, un accès à la nature. Et donc, ces bourgs-centres-là, en fait, ils sont reboostés.
Comment l'État est intervenu ? Le préfet l'a dit tout à l'heure, il y a plein de choses qui justifiaient qu'on intervienne, mais il faut expliquer quel est l'argent qui a été envisagé pour ça. Et là, il y a deux choses qui interviennent. Le Covid, et probablement aussi pour les grands édifices qui ne sont pas très bien entretenus dans notre pays, qu'ils le sont, mais on a un tel patrimoine qui coûte très très cher, l'incendie de Notre-Dame en 2019, qui, je pense, a beaucoup joué. Pour la sortie du Covid, il s'agissait de remettre l'économie au travail et de réinjecter de l'argent. Donc ça, c'est le plan de relance. Et pourquoi les grands édifices ? C'est parce qu'ils sont chers à entretenir, pas tous très bien entretenus, et quand même ça a été un électrochoc l'incendie de Notre-Dame. Il y a une loi qui a été votée exprès pour ça d'ailleurs.
Il y a un vrai fil rouge dans l'histoire, et un parallèle très simple à faire, c'est que qu'on soit à Notre-Dame de Paris, qu'on soit à Saint-Fulcran de Lodève, qu'on soit sur le fort Brescou au large de Agde, qu'on soit à côté dans un petit hôtel particulier du XVIIIe siècle au cœur de Clermont-l'Hérault, qu'on soit dans une petite grange sur le Larzac ou sur une Lavogne, comme on va bientôt en restaurer sur le camp militaire peut-être, on a toujours les mêmes personnes qui travaillent, le même savoir-faire, la même exigence de qualité et d'engagement. Donc en fait, il est là le parallèle. Quel que soit l'endroit où on travaille, l'époque du bâtiment sur lequel on est amené à exercer nos savoir-faire, toujours la même exigence et toujours les mêmes techniques, les mêmes matériaux, les mêmes outils et puis surtout le même savoir-faire humain.
Personnellement, moi, c'est un chantier qui me tenait beaucoup à cœur puisque l'ancienne cathédrale de Lodève, c'est le premier édifice sur lequel j'ai travaillé. Donc il y a une résonance particulière. Il y a 35 ans que je suis arrivé dans l'Hérault. J'ai travaillé donc pour un architecte en chef des monuments historiques et en l'occurrence sur cet édifice. J'avais commencé un premier diagnostic sur la cathédrale et donc qui a été suivi de campagnes de travaux dans les années qui ont suivi. Mais on n'a jamais mené des travaux de l'ampleur de ceux qui viennent de se terminer.
Pour moi, dans ma vie professionnelle, c'était un des chantiers les plus entier, ambitieux, en fait, au final, de travailler vraiment de l'extraction de la pierre de taille jusqu'à la dorure des marbres dans la chapelle. Donc c'est vraiment très intéressant. Et puis le côté archéologique de l'édifice, essayer de... Parce que c'est un clocher qui n'avait pas été étudié encore, donc l'étude archéologique associée qu'on avait, nous, un peu débuté avec les études de Marc de Tacheron, notamment, là, qui ont été poursuivies par les archéologues, avoir un peu une vision globale de cet édifice et aller, pas du début à la fin, mener le projet du début à la fin.
En fait, Saint-Fulcran a toujours été là. Enfin, moi, j'ai grandi à Lodève. Lodève sans Saint-Fulcran n'existe pas. Et Saint-Fulcran sans Lodève n'existe pas non plus. En fait, pour moi, c'est vraiment constitutif de mon monde. Tous les Lodévois, tous ceux qui ont grandi à Lodève ressentent ça aussi, quelle que soit leur confession, quelle que soit leur origine. Et ouais, je crois que c'est quelque chose qu'on partage. La cathédrale, elle est au milieu de la ville. Elle culmine à 57 mètres de haut. Elle est tellement présente qu'elle représente la ville.
Moi qui suis très, très féru des métiers d'art, des savoir-faire, je trouve très important, voilà, en tant que directeur de la manufacture de la savonnerie, effectivement, où il y a un savoir-faire ancestral. Depuis 1664, on travaille sur des techniques qui sont toujours les mêmes. Voilà, les matériaux ont un peu changé, mais sinon la technique est la même. Et là, c'est la même chose pour les tailleurs de pierre, où effectivement, j'ai suivi de près leur travail, et c'est vrai que c'est très important. Alors, ils ont travaillé avec une restauration, ce appelle de restauration de pierres à tiroir, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé les pierres et ils ont glissé à l'intérieur, mais c'est presque au millimètre les pierres taillées, qu'ils ont retaillées. Et souvent, justement, ces artisans mettent un petit peu leur monogramme et leurs initiales, et je trouve ça intéressant d'avoir cette continuité. Et puis, pas que, parce qu'il y a eu effectivement les tailleurs de pierres, mais il y a aussi les personnes qui sont occupées des cloches, Azur Carillon, qui a travaillé sur une analyse aussi de la sonorité des cloches, sur pourquoi pas refondre une cloche, l'intégrer dans les 7 cloches existantes. Donc tout un travail de savoir-faire qui est très important. Et puis aussi, il y a eu des gens qui ont intervenu sur le toit, sur les lauzes, sur la serrurerie, enfin, sur les dorures, mais les fresquistes, les vitraillistes. Voilà, plein de savoir-faire qui, pour moi, sont une chose importante et qu'il faut perpétuer et transmettre aux générations futures.
Ce grès qui est sur la cathédrale, il est très spécifique, on le sait, on le voit, même quand on est néophyte, je pense, parce qu'il a une couleur magnifique, très chaleureuse, un peu changeante, variable, avec même parfois des ramages. On va du crème à l'orange, presque, avec les oxydes métalliques, les oxydes de magnésium, les oxydes de fer. Et le fait de pouvoir retrouver une pierre localement en faisant une carrière ponctuelle, à titre dérogatoire pour les monuments historiques, ça a été une très belle opportunité sur ce chantier. C'est une très belle démarche parce qu'en fait, ça permet d'avoir vraiment le matériau qui correspond exactement au matériau d'origine, donc une belle fidélité scientifique, je dirais, dans la restitution. Et puis, il y a aussi une belle démarche éco-responsable.
C'est passionnant de voir tous ces artisans du patrimoine qui... Ils sont assez taiseux, quoi. Ils sont à leur tâche et ils sont spécialistes de ce qu'ils font. Et on sent que même partager, c'est pas vraiment... c'est pas leur tasse de thé. Et ils font des choses tellement belles. Et ce cœur qu'ils mettent à leur art, c'est génial de partager ça.
Le patrimoine bâti, il n'est là que parce qu'il y a eu des gens pour le construire, parce qu'il y a eu des gens pour l'habiter, s'en servir... des gens pour l'entretenir, le restaurer. Et c'est, en fait, ces gens, c'est vous, c'est nous, chacun à notre place, comme usager ou comme constructeur ou comme restaurateur.
Quand il y a cette union avec les élus de la part de l'État, on va assez loin. L'État territorial, l'État département, enfin, l'argent public d'une manière générale. C'est pour toutes ces raisons que je travaille comme sous-préfet avec cette volonté d'accompagner les gens qui bossent, les gens qui s'exposent. Quand on fait rien, on risque pas d'être critiqué. Ben voilà, moi j'aime bien les gens qui s'exposent, de manière générale. Alors, il s'agit pas non plus de partir dans des tas de tirades, dans des tas de choix qui sont infaisables, avec deux, trois idées et puis une certaine fermeté, en tout cas une rigueur plus qu'une fermeté, sur le long terme. On part pas dans tous les sens, on part dans une direction pour un territoire, une ou deux directions. Dans un texte, il y a une idée, deux idées, rarement plus.
On a pu avoir ce plan de relance, on a pu lancer les travaux, et aujourd'hui, au bout de 18 mois, on arrive presque à la fin. On a fait une inauguration, même si tout n'est pas complètement terminé.
Ça vous fait quoi aujourd'hui de voir cette inauguration avec une compagnie qui a joué un peu autour de votre...
Oui, alors, personnellement, moi j'étais très inquiet en me disant, mais il piétine les protections en plomb qu'on a posées sur les corniches, il s'accroche sur les clôtures métalliques que nous avons créées, moi je voyais que ça. Voilà, il grimpait sur les maçonneries, mais on se disait, mais ils vont abîmer les joints, ils vont...
Voilà, il y a deux personnes dans le public qui ont transpiré.
Voilà, moi en particulier.
Peut-être le maçon aussi.
Le maçon aussi, peut-être, on va en parler tout à l'heure. Ouais. On se disait, mais là, peut-être qu'il s'appuie sur une pierre qui est pas bien stable. Voilà.
Non, mais après. Bon, on avait quand même. Normalement, on est censé être les plus à même d'être sûr qu'il faisait ça en sécurité, mais n'empêche que voilà, c'est quand même impressionnant.
J'étais très émue. En fait, je suis émue depuis 3 jours, là. Je suis émue depuis 3 jours parce que ça fait 3 jours qu'on organise la montée au clocher pour les habitants de l'Audève et du Lodévois et l'Arzac, et qu'on partage leurs sensations, leurs émotions. Je suis émue parce que la cérémonie de ce matin, avec le préfet, avec la présidente de région, avec le représentant du département, le directeur des affaires culturelles à l'échelle Occitanie, enfin, tout ça montre un intérêt, une reconnaissance. Et puis surtout, ce qui me touche, c'est de voir tous les habitants qui sont venus et qui avaient envie de partager ce moment. Et on en a besoin de temps comme ça où on est ensemble autour de quelque chose qui est positif et qui nous fait du bien. On en a un peu marre de se retrouver sur des trucs pourris. Il y en a, non mais c'est vrai. Et là, donc c'est émouvant et il faut le vivre. Maintenant, c'est la mise en valeur, c'est la création de ces visites. Donc, comment ça s'inscrit dans le panel d'offres de découverte de l'Audève et du Lodévois et l'Arzac. Il y a encore plein de choses à construire.